qu'un sourire. Reconnaissons que pour les Indiens, chrétiens ou barbares, c'était un peu la même chose. Pour tout vous dire, j'ai passé quelque temps à Ponta do Arpoador dans une autre vie. Ce petit hôtel de l'autre côté de l'avenue, le seul à donner directement sur la plage d'Ipanema. L'Arpoador Inn, répondit Martinho, cherchant le reflet de Arret dans le rétroviseur. Je vois très bien où c'est. Rua Francisco Ottaviano. Je surfais en face quand j'étais gosse. Des petites vagues capricieuses qui vous brossaient sur les rochers tranchants. Ma mère n'aimait pas ça. Eh bien, visiblement, nous avons plusieurs choses en commun. À propos, d'où tenez-vous ce français impeccable? De ma mère, elle était française. C'est dans votre langue qu'elle me grondait. D'ailleurs, c'est en français que j'ai lu votre roman. À propos, savez-vous que votre nom a un sens en brésilien? Jacaré? Oui, bien sûr. Phonétiquement, c'est le jacaré, le caïman, n'est-ce pas? En fait, c'est un pseudonyme. Je l'ai choisi pour sa consonance et parce que le caïman était mon animal fétiche pendant mes aventures brésiliennes. Intéressant. Et vous savez qu'il signifie aussi quelque chose en français, je suppose? Non, quoi? Un haret, c'est un chat domestique redevenu sauvage. Dans le rétroviseur, Martinho chercha à nouveau le regard de son passager et il y devina une étincelle de satisfaction. « J'avoue que c'est un sens qui me plaît, » dit Arret après un court silence. « Que mon nom de plume garde quelque chose de sauvage dans les deux langues. » Puis la route devint monotone et Arret s'assoupit. Peu après la sortie de l'aéroport Carlos Jobim, Martinho avait engagé la berline sur l'autoroute Washington-Louis et il filait maintenant vers le nord en direction de Petropolis. À l'arrière, dans le confort des sièges en cuir blanc, Arret ne vit rien des lagunes irisées de la baie de Guanabara qui défilaient sur sa droite sous des nuages brodés d'orages à venir. Rien non plus, aussitôt passé Jardim Olimpo, de la forêt épaisse et brouillonne qui enchâssait la route et ensevelissait les villas basses aux couleurs pastel, aux fenêtres bardées de fer forgé. Rien des contreforts étouffés de végétation, ni de l'inflorescence luxuriante de la Mata Atlantica. Quand la route soudain sinueuse et tout en corniche se jetait enfin à l'assaut de l'ancienne station impériale. Rien des orchidées graciles en grappes suspendues, des fougères géantes aux crosses spiralées, des ipés, des cèdres, ni des coatis, des cutillas, des papagayos de Peito Rocho. Rien de tout ce qui serrait le cœur de Martinho à chaque voyage au souvenir de sa mère qui aimait tant ce qu'elle appelait son doux refuge, caché au cœur de cette nature libre et inépuisable, comme elle aimait dire en citant Stefan Zweig. Endormi, Arret ne vit rien de tout cela. Il le rêva et ne se réveilla que lorsque le trafic ralentit et freina son sommeil. Dans ses yeux fatigués, il découvrit alors Petropolis. Petite Bavière sous les tropiques. Salzbourg miniature à la brésilienne. Une station à l'allemande, provinciale et décadente, accrochée à ses collines. Une petite jungle au creux des Alpes, avait dit Lotte, la femme de Stefan Zweig, quelques jours avant que le couple ne s'y donne la mort, dans un abandon calmement résigné, blotti dans les bras l'un de l'autre. Une petite ville qui soupirait et essayait de respirer quand même. De modestes palais coloniaux rococo, baroquement antiques, comme des casinos oubliés de Baden-Baden. Des toiles à bavaroises, mais plaquées de tôles colorées, sur des façades à colombages. Et des canaux fleuris que des rues étroites épousaient, protégées de leurs crues tropicales par des murets. Bientôt la voiture remonta une longue rue qui longeait sur la gauche une rivière vive entre des parapets. Des passerelles en ciment l'enjambaient pour rejoindre des maisons basses cachées de l'autre côté dans la verdure, sous des flamboyants rougeoyants et d'autres arbres fleuris de constellations violacées. Les plantes et les frondaisons, insolentes et joyeuses, se jouaient des maisons et des murs qu'elles débordaient de tous côtés. Des racines forçaient les dalles de ciment des trottoirs et des grappes de fleurs odorantes pesaient sur les toits de tuiles. Puis la rue se borda sur la droite de boutiques alanguies ouvertes à des passants nonchalants. Une pâtisserie rose pâle au parfum sucré. Un garage bleu et blanc résonnant d'une tôle étamée dans l'odeur visqueuse d'huile tiède. Un étal de fruits bariolés aux senteurs mûres et acidulées. Et un kiosque enseveli sous ses journaux au goût d'encre et de papier. Martinho vira alors sur la gauche et à peine la voiture eut-elle attaqué la pente de l'autre côté du ruisseau, qu'un chemin s'ouvrit sur sa droite à travers une avalanche de verdure. La voiture grimpa une courte allée sinueuse qui les mena jusqu'à une modeste maison accrochée au talus. La pente était si raide que la véranda reposait sur des pilotis de béton, mais au-dessus de l'endroit où Martigno s'était arrêté, on devinait une large terrasse bleue et blanc, au toit de tuiles soutenues par quatre colonnes en stuc. Le soir était déjà là, et quelques jardins s'enguirlandaient de lumière dans le voisinage, lucioles immobiles dans la pénombre des frondaisons. Le balai soyeux des éphémères s'anima aussitôt contre les ampoules, et le temps que Martigno ouvre la portière, c'était la nuit. « Nous y sommes ?»«
Nous y sommes, » confirma le jeune homme.
« C'est charmant, vous habitez ici ?»«
Non, comme je vous l'ai dit, j'habite Rio. Je suis médecin et j'y ai mon cabinet. Mon père habite ici, c'est lui qui va vous héberger. »
« Vous ne travaillez pas dans sa maison d'édition ?»«
Non, il m'a demandé de vous accueillir à l'aéroport parce que c'était plus pratique pour lui. »
Il insista encore pour prendre seul les bagages, et Arré, fatigué, le laissa volontiers faire et le suivit dans l'escalier raide qui menait à la maison. Quand ils débouchèrent sur la terrasse, Arré s'imagina aussitôt y travailler en paix à son prochain roman. Mais Martigno poussa une porte étroite derrière une moustiquaire à ressort, déposa les bagages à l'intérieur, puis s'effaça pour inviter le Français à entrer.
« Je vous en prie. »
« C'est une émotion étrange pour un écrivain de dormir à Pétropolis, » dit Arré en entrant. « Vous savez que Stefan Zweig s'est retiré dans cette ville pour s'y donner la mort en compagnie de sa femme ?»«
Nous avons décidé, unis par l'amour, de ne pas nous quitter, »
récita Martigno en se tournant vers son hôte.
« Comment pourrais-je l'ignorer ? Vous êtes ici chez eux. »
Arré fixa le jeune homme, interdit.
« Comment ça ?
Cette maison ?» C'est celle dans laquelle M. Zweig et Mme Lotte ont choisi de mourir, comme vous venez de le rappeler. Et à moins que vous n'y voyiez quelque objection, nous avons prévu de vous héberger dans la chambre même où ils se sont endormis.
Arré regarda tout autour de lui, comme s'il attendait des murs et des meubles qui lui confirment cette révélation. La confusion des sentiments qui le gagnaient bouscula aussitôt son cœur.
La maison de Zweig ?
Cette maison est celle que Stefan Zweig louait à Madame Banfield.
Celle-là même? Mon Dieu, quel choc!
Jamais je n'aurais espéré.
Je reste sans voix.
C'est la deuxième fois dans ma vie que je croise le destin de cet écrivain que j'admire tant.
Martigno était ressorti pour allumer des lanternes à la citronnelle dans la véranda. Arré haussa la voix pour s'extasier encore de cet incroyable honneur.
Imaginez-vous, Martigno, qu'il y a 30 ans, j'ai connu un homme qui affirmait avoir vécu son enfance dans cette même maison. Vous vous rendez compte?
Quand je vous ai entendu dire « Monsieur Zweig » tout à l'heure, j'ai aussitôt repensé à cet ami qui l'appelait, lui, « Monsieur Stéphane ».
Martigno ne répondit pas. Il avait disparu dans la nuit au-delà de la terrasse, mais une autre voix s'adressa au Français depuis l'intérieur de la maison.
« Je ne savais pas que nous avions été amis. »
Cette voix fut une morsure de cobra qui tétanisa Arré, et quand il se retourna, son cœur trébucha dans sa poitrine. « Santana, vous ici ?»
C'était comme quand il s'était essayé à la boxe, se crochait au foie par surprise. La première douleur du choc, et quelques secondes plus tard l'autre douleur, celle qui irradie dans tout le corps jusqu'à faire disjoncter la conscience. L'homme était plus vieux, plus maigre. Malade, sans doute, peut-être bien infirme dans son fauteuil roulant, mais c'était toujours Santana tel que Arré l'avait connu 30 ans plus tôt. Le même costume blanc, le même regard droit, les mêmes doigts agiles qui jouaient avec une pièce de monnaie aujourd'hui comme il jouait à l'époque avec un stylo, et la même force dans la voix.
« Vous êtes décidément toujours cette petite personne égocentrique et prétentieuse. Vous n'avez donc pas changé en 30 ans ?» Même si, à ce qu'il paraît, vous êtes depuis devenu écrivain. Je m'appelle Figueras. L'avez-vous vraiment oublié? J'étais l'inspecteur Antonio Figueras. Santana est le nom que vous avez donné à mon personnage dans votre roman.
Il fit rouler son fauteuil jusqu'à lui, et Arré se raidit. Même handicapé, cet homme vieilli faisait ressurgir en lui une peur incontrôlable.
Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, Santana? Parvint-il à articuler malgré la surprise.
Que faites-vous ici et pourquoi y suis-je aussi?
Eh bien.